Elisabeth Bilois est la promotrice du magazine féminin Her Beauty Magazine. Depuis le début de l'année 2020, son équipe et elle se battent contre toutes sortes d'aléas pour produire ce qui se fait de moins en moins dans le domaine des magazines de beauté au Cameroun. Produire une version web et une version imprimée. C'est une entrepreneure sûre de ses forces, extrêmement déterminée à donner à sa revue une place de choix dans le microcosme des médias au Cameroun. Une jeune dont l'objectif est de favoriser l'empowerment des femmes, c'est-à-dire leur prise de pouvoir, qui a accepté de répondre à mes questions. Bienvenue dans ce nouvel épisode de N.com, votre podcast du numérique et des médias, préparé et présenté par René Nkowa. Pour cette quatrième édition de la première saison du podcast, Elisabeth Bilois m'a reçu dans son bureau domicilié dans un espace de coworking qui se trouve au cœur de Douala. Avec cette promotrice de médias, nous revenons sur le cheminement qui l'a mené à lancer Her Beauty Magazine, sur les défis liés à la production d'un magazine cross-média, c'est-à-dire à la fois web et imprimé, sur ses secrets de fabrication et sur la rentabilité d'une telle entreprise dans un contexte local difficile, que ce soit du point de vue de l'audience ou de celui des annonceurs. Bonjour Elisabeth Bilois. C'est pour moi un réel plaisir de te recevoir dans ce quatrième épisode de la première saison du podcast N.com. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, je suis très enchantée. Ça me fait toujours plaisir de parler un peu de mon expérience et de ce qu'est Her Beauty Magazine. Donc c'est un plaisir pour moi aussi.
Comme je l'ai dit en introduction, tu es la directrice de publication de Her Beauty Magazine. Un magazine, comme son nom l'indique, qui est un mensuel dédié à la beauté et à l'entrepreneuriat féminin au Cameroun. La première question que je vais te poser est simple. Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer dans cette entreprise médiatique?
La passion. Je réponds déjà à ta question et ensuite je vais essayer de faire un petit détail. Alors, au début, oui, c'était un magazine purement autour de la beauté et de l'entrepreneuriat féminin. Et aujourd'hui, grâce à l'environnement dans lequel on est, on est passé du magazine beauté au magazine pour l'entrepreneuriat et pour le leadership féminin au Cameroun parce qu'on se voit vraiment comme un média qui doit supporter, encourager et empower les femmes camerounaises, tu vois. Donc, qu'est-ce qui m'a lancé? Je parle de la passion parce que, comme tu le sais, il y a quelques années, j'ai commencé par le blogging. J'avais envie de faire du blogging lifestyle un peu. De raconter un peu, de parler un peu de tout ce que je vois, tout ce qui me plaît, un peu de mode, un peu de beauté, un peu de femmes, d'écrire sur des sujets d'actualité. Et à l'époque, je voulais vraiment rendre le blogging professionnel. J'avais même fait des cartes et tout. Et je me suis dit, ouais, peut-être que ça peut être un bon créneau. De base, je n'ai pas fait d'études de journalisme, j'ai fait des études de com. Mais je me suis lancée vraiment sur le plan journalistique parce que je me suis rendu compte que j'avais un petit don pour l'écriture. Donc pendant l'année courant d'année dernière, pour une fois, j'ai accepté de travailler pour quelqu'un. J'étais responsable marketing pour une marque de distributeur de produits capillaires en même temps que j'avais mon institut de beauté à l'époque. Et donc j'ai commencé à bosser là-bas. Et dans une de mes stratégies, en fait, on a décidé de descendre sur le terrain dans les salons. Et j'ai fait un constat qui était évident, c'est qu'il n'y a pas de magazine beauté au Cameroun qui représentait le Cameroun, qui représentait les femmes camerounaises et leurs problématiques ou qui parlait de ce que les femmes font au Cameroun. Je me souvenais qu'à l'époque, dans nos salons, quand on était toutes petites, il y avait des magazines comme Amina, comme Diva, qui étaient toujours là. Mais aujourd'hui, quand tu en retrouves, c'est des anciens numéros des années passées. Donc je me suis dit, écoute, ce serait bien d'avoir un magazine qui peut être posé dans les salons de beauté. Et j'ai pu cumuler mes deux passions, donc de parler de beauté et autres, et puis la passion pour l'écriture et le petit côté journalistique.
Et généralement, ça t'attire des difficultés quand on parle de l'aventure entrepreneuriale, notamment dans le domaine des médias et de la presse. Mais moi, je vais faire un contre-pied et te demander ce qui a été facile dans l'élaboration et la mise en œuvre de ce projet de magazine.
Ce qui a été facile. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été facile? Oui, peut-être. C'était de me lancer. Ça a été facile de me lancer. Parce qu'une fois que je me suis dit, je vais le faire, je me suis levée et je l'ai fait. J'ai dit, écoute, je vais tout mettre en jeu. J'ai arrêté de bosser. J'ai dit, je vais mettre mon énergie là-dedans. Je vais le faire et je pense que je vais y arriver. Et je me suis levée et je l'ai fait. C'était facile. C'est juste que je ne savais pas que ça devait être plus difficile devant. Mais ça, c'était le plus facile vraiment. C'était de monter le projet, de vraiment l'élaborer, de le visualiser et de dire, voilà, je le fais. Point.
Et dans l'élaboration du projet et aujourd'hui dans sa mise en œuvre, est-ce que ça a été facile de trouver les collaborateurs ou alors les... Je vois que tu as beaucoup d'invités qui sont quand même des personnalités au Cameroun. Est-ce qu'à ce niveau, ça a été facile d'entrer en contact avec ces personnes-là?
Non, non, et ça ne l'est toujours pas. Même qu'on commence à gagner un peu de notoriété, c'est toujours une histoire. Dans la stratégie, on s'est dit, bon, ok, tu vas commencer maintenant, personne ne te connaît. Comment tu fais pour que le magazine soit connu? On s'est dit, on va passer par les influenceuses, par les actrices. Et moi, je ne suis pas quelqu'un qui connaît vraiment les gens. Et je ne sais pas. Je suis toujours un peu embêtée quand il faut que je vienne demander quelque chose à quelqu'un. Donc, ce que je faisais, c'est que toutes les personnes que tu vois en couverture, c'est des proches à moi qui connaissaient comment les atteindre, qui m'a dit, bah, vas-y, essaye avec telle, je t'arrange ça. Et une fois que c'était arrangé, quand c'était facile, ça se faisait. Il y a des shootings qui ont été moins faciles à faire. Genre, on est d'accord, la personne est intéressée, mais ce n'est pas du tout facile. Il y en a avec qui ça a été facile de faire, mais après, peut-être pour communiquer sur le truc, tu vois que ça prend du temps, c'est compliqué. Et pourtant, elles sont plutôt contentes. Parce qu'on fait des choses de manière vraiment professionnelle chez nous. Et elle se dit, oh là là, c'est vraiment de la qualité et tout machin. Mais derrière, parfois, elles ne suivent pas. Parfois, elles ne diffusent pas bien l'information. Parfois, elles ne partagent pas. Donc, tu peux faire une couverture avec une star qui a 1 million d'abonnés. Et tu te dis, bon, ça va me donner de la visibilité. Mais elle poste ton truc vite fait un jour comme ça, juste au milieu de 10 000 posts. C'est pas comme, tu vois, c'est pas comme ça que ça se passe normalement. Normalement, ça prend le temps, c'est sur une semaine que tu vois la personne qui est en couverture, prend le temps de partager, de montrer ce qu'il y a eu derrière comme boulot, de montrer qu'elle était contente de le faire. Mais bon, ici, quand les gens pensent que c'est toi qui as besoin d'eux, c'est souvent un peu compliqué.
Bon, là, c'est au niveau des personnalités qui sont en couverture. Et au niveau du personnel technique, donc, ça veut dire des rédacteurs, des graphistes et tout, qui travaillent sur le média, est-ce que ça a été facile de trouver ces personnes et de les recruter?
Trouver le graphiste a été facile parce que j'avais une relation qu'il connaissait et c'est le même que j'ai depuis. Et c'est vraiment, je pense que c'est l'un des meilleurs, il est très très bon. J'ai même pas à me plaindre sur les montages du magazine. Trouver le personnel, c'était une autre histoire parce que commencer sans argent et dire à des gens venez rédiger gratuitement, c'était un peu compliqué. Donc j'avais passé une annonce d'abord pour faire des stages et puis tu arrives, les stagiaires, ils ont vraiment pas le niveau, ils arrivent pas à suivre, tu dois, non, vraiment recruter pour un magazine. C'est compliqué, même pour les gens qui sortent des grandes écoles, que tu entends l'Estique ou bien telle école de communication ou de journalisme. Écrire, c'est vraiment quelque chose que tu as, en fait. Donc, beaucoup vont apprendre ça à l'école, mais ils ne sortent pas forcément avec le savoir, tu vois. C'est vraiment quelque chose que je pense qui nous vient naturellement. C'est pour ça que tu peux avoir des chimistes, c'est-à-dire quelqu'un qui allait étudier l'école, la chimie à l'école, mais qui te rédige des articles incroyables, parce que... C'est naturel. Et ce type de personne, quand tu vas passer peut-être une annonce, il n'est pas disponible pour venir travailler pour toi. Il peut te dire, oui, je peux t'écrire un article de temps en temps, mais tu vas lui donner un article que toi, tu voudrais que ça soit rédigé en 2 jours, il va prendre 1 semaine. Parce qu'il n'a pas le temps, il n'a pas que ça à faire, tu vois. Donc non, recruter n'est pas facile, même en dehors de la rédaction. Quand tu sors de la rédaction et que tu te retrouves sur le plan administratif, recruter au Cameroun d'abord, ce n'est pas facile, point barre. Parce que si tu trouves un très bon, il faut payer beaucoup trop cher. Et au début, tu ne peux pas. Tu n'as pas des annonceurs. Tu n'as pas les moyens. C'est une autre erreur. Hein. C'est-à-dire, si je peux parler du plan administratif ou de la préparation vraiment dans le plan entrepreneurial, contrairement à quand j'avais monté mon institut de beauté où j'ai fait un business plan où j'ai mis sécurité sur 3 ans, ça, ou bien je sais pas, tu mets sur 2 ans les salaires avec le magazine, j'ai pas réfléchi pareil. Donc très vite, tu n'as pas de fond de roulement parce que tu te dis que bon, tu n'as pas vraiment besoin de trop de choses, j'ai besoin juste de quelques rédacteurs, un graphiste, mais c'est pas comme ça que ça se passe.
Dans les faits.
Ouais, ça se passe pas comme ça dans les faits. Mais ouais, le recrutement, c'est toujours un problème. Toujours.
Votre magazine se décline en deux formats, le papier et le numérique. Dans le contexte actuel où les médias sociaux ont le vent en poupe et où la presse papier a d'énormes difficultés, comment justifies-tu ce choix de distribuer une version imprimée du magazine ?
Ça, une fois de plus, c'est à cause de la passion, mais c'est surtout de l'entêtement. J'avoue que c'est surtout de l'entêtement parce que je pourrais me lever et dire je ne fais plus de papier. Mais il y a quelque chose dans le papier, il y a un symbole dans le papier, tu vois, il y a une trace que tu laisses avec le papier. Tu gagnes beaucoup moins d'argent avec la version numérique. Mais le papier, pour moi, ça me tenait vraiment à cœur que les gens puissent tenir ce que j'ai fait, en fait. Ce sur quoi je travaille, que les gens puissent l'avoir en main. Parce que pour lire sur Internet, oui, tout le monde est sur les téléphones, justement. Tout le monde est sur le téléphone. Moi, je veux voir des gens avec ça en main, que les femmes aient ça dans leur sac. Donc, c'est le symbole qui m'entête en tant que tel. Ça me fait un coup, surtout si je veux rester gratuit, ça me fait un énorme coup. Et au départ, les annonceurs ne suivent pas. Donc oui, tout le monde te pose la question à un moment que mais pourquoi tu insistes ? Mais c'est qu'il y a quelque chose dans le papier, dans le fait de pouvoir toucher cette matière-là, de voir que ton travail est sorti comme ça. Les gens peuvent le voir sur plusieurs mois, sur un an. Tu peux même prendre ça, tu jettes ça quelque part chez toi, ça se tu déménages un jour ta maison, tu te rends compte 10 ans plus tard que « Hey, le magazine, c'est encore ici ». On a beaucoup eu ça avec les 100% jeunes à l'époque. On avait nos trucs dans les chambres d'étudiants là. Un jour, tu déménages, tu dis que « Mais, ouais ». Et puis les lyriques, les mets, tout ça là, tout ce qu'on lisait. C'est la même chose en fait que je crois que j'ai envie que les gens ressentent.
Tu viens de dire quelque chose qui est intéressant, que on gagne beaucoup plus en faisant du papier qu'en restant uniquement sur le web. Comment tu expliques ça?
Une assertion. On va parler sur le plan purement argent. Que je ne fais pas encore. Mais je te donne un exemple. Moi, j'ai mes grilles tarifaires. J'ai une grille tarifaire web et j'ai une grille tarifaire papier. Si je fais dans le volume sur un magazine gratuit, si j'imprime 5000 unités, je peux vendre l'insertion dans un magazine comme celui-ci, une page à 300 000, ce qui est mon prix officiel. Si j'écris un article sur un site web, même qu'il est visité par 1 million d'abonnés, je ne peux pas vendre une bannière à plus de 100 000, même que j'ai des millions de personnes qui visitent tous les jours. C'est pas pareil. Alors que ça, comme je dis une fois de plus, le papier reste dans le temps. Un papier que tu déposes dans un institut de beauté et que tu dis à un annonceur, je vais déposer ce magazine dans 10 instituts de beauté à Douala qui font des fréquentations d'au moins 50 personnes la semaine et que ça va être 50 personnes comme ça toutes les semaines, quand il compte sur le mois, il aura touché vraiment beaucoup de personnes. Si tu fais ça sur Douala et sur Yaoundé, tu touches un peu plus de monde parce que 5000 magazines, sans compter les femmes à qui tu vas mettre ça dans les mains, sans compter qu'aujourd'hui, nous, on a un partenariat avec Carrefour, donc pour déposer sur les caisses de Carrefour gratuitement. En réalité, ça fait plus de visibilité que juste un clic ou un truc sur les réseaux sociaux. Donc, normalement, les prix des insertions, tout ce qui est réseaux sociaux, même l'article, je le vends moins cher sur le digital que dans le magazine. Parce que quand tu me demandes un article dans le magazine, en réalité, ça peut facilement me prendre 2 pages. Donc, je ne compte pas ça à ce moment-là que oui, c'est juste un article à 25 000. C'est pas pareil.
Ça veut dire que le magazine, prenons le numéro 10 qui est sorti il y a quelques jours, la version papier n'est pas totalement identique de la version web parce que les insertions publicitaires peuvent être différentes. Parce que, si j'ai bien compris, tu as plusieurs grilles tarifaires en fonction du format web ou papier.
Non. Je dis qu'aujourd'hui, moi, je donne la possibilité à mes annonceurs de communiquer sur le magazine qui sort le mensuel. Et mon mensuel est disponible en version numérique et en version papier. Si tu fais une insertion dans le mensuel, tu te retrouves à la fois sur ma diffusion numérique que sur ma diffusion papier. Mais que j'ai un site internet, j'ai des pages de RS. Donc, si tu me dis « je veux un article dans le site internet », je te dis « ok, le truc dans le site internet, c'est peut-être 25 000. Si tu me dis je veux un article dans le magazine, je te dis c'est peut-être 100 000.
Très bien. On revient là avec la question de la durée des contenus sur internet qui varie en fonction de la plateforme qu'on choisit, parce que la durée d'un contenu sur un site web n'est pas la même durée que sur Facebook ou sur Twitter ou sur un autre réseau social. Peut-on voir le chiffre du tirage, savoir quels sont tes canaux de distribution et aussi savoir si les objectifs fixés pour cette version papier sont atteints?
Alors, donc, est-ce que j'atteins les objectifs? Oui, parce qu'avec mon nouvel imprimeur, je suis allée, on m'a dit d'aller chez le meilleur. Tout le monde m'a dit, il faut aller chez le meilleur. Il paraît que le meilleur, c'est, je peux dire le meilleur. Je suis allée chez le meilleur. Et aujourd'hui, la qualité d'impression sera meilleure. Donc, je pense qu'on va atteindre les objectifs qu'on s'est fixés en termes de chiffres. Et je pense que grâce à ça, on va pouvoir, grâce aux nouveaux chiffres d'impression, grâce au fait d'avoir une meilleure qualité, grâce au fait d'avoir de nouveaux points de distribution, on peut atteindre également les chiffres en termes d'insertion.
Mais excuse-moi de revenir sur la question, mais tu n'as pas donné le chiffre du tirage. Et surtout, est-ce que tu es satisfaite des objectifs, disons? Ou alors je peux reformuler la question, est-ce que le magazine papier a au jour d'aujourd'hui atteint les objectifs que vous vous étiez fixés?
Aujourd'hui on est à 2000 tirages. Est-ce que ça atteint les objectifs? À la base, au début non, enfin jusqu'à présent non. Parce que on n'avait pas beaucoup d'annonceurs. C'est pour ça d'ailleurs, et je remercie toutes les personnes qui sont abonnées, parce que pendant un moment, on ne pouvait pas livrer même nos abonnés, parce qu'on en a aussi, on a quelques abonnés. On ne pouvait pas livrer nos abonnés et on se retrouvait toujours à réfléchir à comment est-ce qu'on va faire en fait pour s'en sortir. On a refait tout le canot de communication, donc les offres, voilà, les offres qu'on a aujourd'hui. Nous, on pense que dès le mois prochain, on peut commencer justement à être satisfaite sur le plan chiffré.
Elisabeth Miloa, parlons maintenant de l'offre web du magazine qui repose sur un site internet très étoffé. On voit qu'il ne savait pas qu'à distribuer la version numérique du magazine et qu'il a une proposition éditoriale tout aussi forte. J'aimerais poser la question de savoir quels sont les objectifs stratégiques que ce site web vise.
Je vais te dire que mon objectif sur les deux prochaines années encore, c'est d'être progressivement le magazine le plus lu et le plus connu par les femmes camerounaises. Et je ne veux pas savoir quelle génération. Hein. Je voudrais que même une maman de 50 ans, 60 ans, est déjà vu ou entendu. Donc notre objectif principal est de rester en contact permanent avec notre lectorat et nos abonnés.
Au début, votre magazine était gratuit. Et à un moment donné, il est devenu payant. Et après, il est repassé à la gratuité. Qu'est-ce qui explique ces changements-là en termes de propositions?
Le business model et le Cameroun et puis Covid-19. Au début, on avait de grands rêves. On s'est dit non, on va faire gratuit. On veut que tous les salons aient le magazine. On veut mettre le magazine dans les mains des femmes. Et puis, on s'est surtout dit que stratégiquement, business model parlant, les entreprises seraient plus intéressées à insérer dans un magazine qui est produit quand même à hauteur de, peut-être si on dit on part sur 3000 exemplaires minimum, une entreprise a envie d'être là-dedans parce que c'est gratuit, tu vois. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y en avait, je ne sais pas combien avant nous, qui avaient le même business model et qui ont disparu en 3 mois, qui ont produit 2 numéros, ils ne sont plus revenus. Celle qui a tenu en gratuit, je ne sais pas combien il y en a qui ont tenu en gratuit, je ne pense même pas qu'il y en ait qui ont tenu plus de 3 mois. Donc, je me suis fait claquer la porte, en fait, au départ, parce que quand j'ai créé le magazine, au départ, c'était que papier, il n'y avait que les réseaux sociaux, il n'y avait même pas de site internet. Donc, les grandes entreprises me disaient oui, mais nous, regardez là-bas, il y a 4 magazines qui sont venus me voir. Ils m'ont dit, ah, c'est gratuit, je vais faire 10 000 exemplaires. J'ai dit à mon patron que oui, patron, signe. Maintenant, tu crois que je vais dire à mon patron que j'ai un magazine gratuit qui vient? Parce que les magazines gratuits, vous comptez sur nous. Mais nous, on n'a jamais la garantie que vous allez faire ce que vous dites. Donc, allez-y, allez faire vos preuves et puis vous revenez. Quand je vous ai fait même 6 mois, comme ça, vous tenez bien, c'est bon. Parce qu'il me disait clairement, on n'a jamais vu quelqu'un qui a tenu 6 mois avec le gratuit. Et au départ, à cause de notre ciblage et de notre créneau, sincèrement, hein, on était bien partis. On avait déjà des premières annonces dans le premier et le deuxième numéro. Il y a des insertions. Hein. Dès que Covid est arrivé 2 mois après la création du magazine, tous les annonceurs que j'avais, les promesses de machin, les trucs, annulés. Donc j'ai produit 4 numéros comme ça, 5 annonceurs. Donc à un moment d'abord, on a stoppé la production papier parce qu'on s'est dit, on va produire papier pour qu'il s'est fermé partout, personne ne sort. Continuons juste à faire le numéro qu'on met en machin. Sauf qu'il y a une grosse production derrière un numéro. Il faut toujours faire un shooting, il faut toujours recevoir la star, il faut la mettre à l'aise parce que nous, on ne veut pas avoir à faire un magazine où on peut emprunter les photos des gens, non. On s'est dit, on va faire de l'éditorial et tout, pardon. Donc, c'était chaud, quoi. Et on s'est dit, écoute, est-ce qu'on fait payer les gens? Si les gens aiment vraiment notre contenu, ils peuvent payer, non? Combien ils peuvent payer? J'ai fait un petit sondage, j'ai demandé, est-ce que vous ne seriez pas à payer? La majorité a dit oui. Combien vous ne seriez pas à payer? Ils ont donné un prix, on a dit, ok, on va faire un prix symbolique, 1000 francs. Erreur monumentale. Elles n'achètent pas. Mais l'autre problème qu'on avait, c'est qu'on n'avait pas de circuit de distribution fiable, c'est-à-dire qu'on n'avait que Jabba Space où nos bureaux sont. Et puis, on avait certains de nos événements. Et puis, on leur disait, ok, vous pouvez précommander, on vous livre. Il y avait la version numérique que tu pouvais payer en ligne sur le site. Ça aussi, c'était une cata parce que le système de paiement qui avait été installé était vraiment brouillon. Il buguait toutes les 2 heures. Donc, s'il y avait 100 personnes qui ont même essayé d'acheter, elles ont vécu une mauvaise expérience. Elles sont reparties. Du coup, j'en ai vendu peut-être 10. Et même pour mes chiffres, c'était pas bon parce que j'allais me retrouver en train de mentir, tu vois, de dire que non, oui, on fait 500 téléchargements. Non, c'est faux, ça freinait beaucoup de choses. Et moi, ça me plaisait pas de me dire que j'ai fait un boulot que personne n'a vu. C'est frustrant. Donc, on s'est dit qu'on va faire payer aux gens, mais ça n'a pas vraiment marché. C'est pourquoi, le mois d'avril, on est venu, on a dit, écoutez, on veut vraiment que vous nous lisiez, on veut vraiment que vous voyez le travail qu'on accomplit derrière. On veut vraiment vous donner ce contenu-là gratuitement parce que c'est possible de le faire. Et on va annuler tout ce qui est frais derrière et on va aller demander aux entreprises de payer pour que vous puissiez nous lire.
Ok. Et maintenant, ça fait 1 an que ton équipe, plus d'1 an même d'ailleurs, que ton équipe et toi produisez le magazine. Vous en êtes arrivé au 10e numéro en ce mois d'avril 2021. Avec le recul que tu peux avoir aujourd'hui, est-ce que notre environnement local est réceptif au magazine qui, comme le vôtre, met l'accent sur la beauté?
Non, c'est pourquoi on met pas l'accent sur la beauté.
Ah, vous ne mettez pas l'accent sur la beauté. Vous mettez l'accent sur quoi là?
Non, on met pas l'accent sur la beauté, on met l'accent sur l'empowerment, sur le leadership, sur l'entrepreneuriat, parce que on s'est rendu compte que c'est une niche dans laquelle les femmes s'expriment le mieux aujourd'hui. Les femmes ne veulent plus être définies par rapport à leur beauté physique et tout ça. C'est bien de s'habiller, de faire ses soins, mais on est plus enclin à faire des soins quand on gagne sa vie, quand on se bat toute seule, quand on est chef d'entreprise, on a envie d'être sur notre 31 pour aller à des rendez-vous. Oui, ça c'est motivant. Si tu veux parler de beauté, de soins aujourd'hui, tu vas t'adresser aux jeunes filles qui sont encore étudiantes, donc qui n'ont qu'à penser à étudier, et que ce n'est pas elles qui payent à la fin de la journée, parce que soit elles dépendent encore des parents, soit voilà. Donc non, c'est pas la beauté, les astuces, tout ça. Il y a plein de beauty advisors. Nous, on travaille plus avec justement les beauty advisors pour tout ce qui est beauté, c'est-à-dire que on voit une fille qui est déjà blogueuse, qui a déjà son truc, et puis on lui dit, ok, est-ce que tu peux nous proposer un article pour tel domaine, échange de bons procédés. Donc pour elle, elle est contente de pouvoir écrire dans le magazine, de dire, ah, j'ai écrit pour Beauty Magazine, et nous on est content de dire que écoute, telle a écrit pour nous. Et ça fait que ses abonnés, donc celles qui ont l'habitude d'écouter ses conseils et tout ça, elles sont contentes d'avoir son contenu encore. Et nous, on n'a pas à réfléchir pour répéter les mêmes choses qu'elles savent déjà.
Le magazine, comme tu l'as dit, met en valeur les femmes qui ont un parcours social et entrepreneurial qui peut en inspirer d'autres. Quels enseignements tires-tu de ton expérience de femmes entrepreneurs dans le secteur des médias au Cameroun, qui, on le sait, est dominé par les hommes?
Est-ce qu'il y a une leçon que je tire? Non, je suis en train de vivre une expérience, tu vois. Et je prends tout ce qui arrive. Et je me mets vraiment dans la position de quelqu'un qui vend quelque chose, mais quelque chose d'immatériel. Donc, je ne tire pas de leçons de ce domaine en particulier. Je tire les leçons de la vie entrepreneuriale de manière générale. Parce qu'en réalité, c'est dur tout autant que de vendre vraiment des vêtements. Parce qu'il faut réussir à donner aux gens des choses qui peuvent les intéresser. Et il faut éviter, moi je préfère éviter de regarder ce que les autres font. Parce que si tu regardes ce que les autres font, tu vas changer ce que tu veux faire. À la base, tu fais ton truc, c'est pour toi. Donc, moi, tout ce que je sais, c'est que je me réoriente chaque jour pour atteindre ce que les femmes veulent en termes de médias ou de magazines aujourd'hui. Et ce que les femmes veulent aujourd'hui, c'est qu'on les motive, qu'on les encourage, qu'on leur donne des conseils, des stratégies sur comment elles peuvent se développer, comment elles peuvent devenir indépendantes, comment elles peuvent devenir fortes, comment elles peuvent monter des empires. C'est ça qui les intéresse.
Elisabeth Bilowa, nous sommes arrivés au bout de notre entretien. Est-ce que tu as un dernier mot pour les auditrices et les auditeurs de ce podcast ?
Oui, alors moi je ne suis pas... J'aurais bien voulu sortir une phrase de motivation là, tu vois.
Ok.
De faire un speech sur n'abandonnez pas vos rêves. Mais n'abandonnez pas vos rêves. Hein. Croyez en vous, soyez déterminés. Moi, tout ce que je dis, c'est que de mon expérience d'entrepreneur, il y a une seule chose qu'on ne doit pas blaguer avec. C'est la patience, frère. En réalité, tout est une question de temps.
Je te remercie d'avoir accepté mon invitation pour cette nouvelle édition de N.com, le podcast du numérique et des médias. Tu sais, depuis des années que je suis un admirateur de ton travail et je ne peux que vous féliciter, ton équipe et toi, pour la remarquable qualité de votre magazine.
Merci à toi de me donner cette opportunité. J'espère vraiment que plein de gens vont écouter parce que je pense que tout le monde va savoir un peu l'histoire.
Merci Elisabeth.
Merci.
Elisabeth Bilowa reste ouverte à toute sollicitation et vous pouvez la rencontrer à Java Space, un espace de coworking situé à Douala, où elle a ses bureaux. Pour notre part, c'est tout pour cet épisode 4 de la saison 1 de N.com, votre podcast du numérique et des médias. Je vous remercie de l'avoir écouté et je suis heureux de vous savoir de plus en plus, nombreuses et nombreux à le faire. Vous pouvez retrouver le podcast sur les principales plateformes de podcasting, c'est-à-dire Spotify, Google Podcast ou encore Apple Podcast. N'hésitez pas à vous abonner et à laisser un commentaire dans la case dédiée. Rendez-vous le mois prochain avec une nouvelle actrice ou un nouvel acteur du numérique et des médias. À bientôt!